Bonsoir à toutes et à tous. Plus de 40 000 malades dans le monde et 910 morts. Et ce n'est peut-être que le sommet de l'iceberg, prévient l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Même si en Chine, les chiffres montrent un ralentissement de la propagation du virus. Mais que valent ces chiffres? Et puis comment expliquer toutes ces critiques en Chine sur le manque de transparence et les appels à plus de démocratie lancés à l'occasion de cette épidémie? En France, comment se portent les rapatriés de Wuhan et les habitants de la station de Contamine-Montjoie où toute une famille de Britanniques a été infectée, dont un enfant de 9 ans? C'est le sujet de cette émission de Se C'est dans l'air, intitulée ce soir « Coronavirus, pourquoi l'OMS s'inquiète ?». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Niquet. Vous êtes responsable du pôle Asie de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur de « La puissance chinoise en 100 questions » chez Talendier. Antoine Bondaz, spécialiste de la Chine, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous enseignez à Sciences Po. Daniel Lévy-Brul, vous êtes épidémiologiste à Santé publique France, responsable de l'unité infection respiratoire et vaccination. Et enfin, Karine Milsan, économiste, chercheur au CNRS et professeur associé à Paris Sciences économiques. Vous êtes spécialiste du système de santé chinois et auteur de « Réforme du système de santé chinois », c'est chez Palgrave. Daniel Lévy-Brul, on va peut-être commencer avec vous, l'épidémiologiste. Où en est-on justement de cette épidémie? Est-ce qu'elle reste sous contrôle ou est-ce que les choses sont imprévisibles?
Elles sont très largement imprévisibles. Et c'est vrai que l'appréciation de l'OMS, qui mentionne que nous ne verrions que le sommet de l'iceberg, peut faire peur. En fait, je crois qu'il faut la tempérer parce qu'il y a plusieurs raisons qui nous conduisent à penser que les 40 000 cas ne représentent pas l'entièreté des cas qui sont survenus jusqu'à présent. Néanmoins, il y a une chose qui explique cette affirmation et qui est plutôt une bonne nouvelle paradoxalement. C'est qu'en effet, beaucoup de cas ne sont pas identifiés, ne sont donc pas notifiés dans les statistiques mondiales. Mais pourquoi ils ne le sont pas? Parce qu'en fait, ils ne sont pas graves. Parce qu'en fait, ils ne sont même pas diagnostiqués comme étant liés à ce virus. On sait de plus en plus que le virus ne se traduit pas toujours par une pneumonie qui conduit à l'hospitalisation, mais très souvent, on ne sait pas dans quelle proportion, par simplement un peu de fièvre, de la toux, quelque chose qui ne pousse pas forcément les gens à les consulter. On sait même que de temps en temps, il n'y a aucun signe, la personne est infectée et ne présente aucun signe. Et donc, c'est tout cet ensemble de formes bénignes qui explique qu'il y a probablement beaucoup plus que les cas qui sont notifiés, qui sont les plus sévères, ceux qui sont hospitalisés et ceux qui sont testés.
Valérie Niquet ?
Oui, alors, ça confirme également ce que vous dites, mais il y a aussi le fait qu'il semblerait qu'en Chine, on n'ait tout de même pas beaucoup encouragé les tests et l'utilisation des tests d'une manière massive, et que justement, quand les cas n'étaient pas très certains, ou en tout cas quand on n'était pas arrivé à un état de très forte gravité, les hôpitaux semblent avoir eu pour consigne plus ou moins officielle de ne pas multiplier les tests qui auraient vraiment assuré qu'il s'agit bien de cette maladie, pour plusieurs raisons, sans doute pour ne pas multiplier les cas encore en termes d'image, mais il y a aussi le fait que le gouvernement chinois a pris la décision de prendre en charge le remboursement des soins quand il s'agit du coronavirus. Et certains souhaitaient se faire tester justement pour obtenir ce, entre guillemets, certificat qui leur permettait de ne pas payer eux-mêmes leurs soins qui, en Chine, il faut le rappeler, et on en reparlera peut-être du système de santé chinois, sont très chers. Et
donc ça, c'est un élément. La santé est payante, sauf si on est le coronavirus.
Dans ce cas-là, l'État a décidé que ce serait une maladie qui serait prise en charge en partie pour, évidemment, éviter plus de mécontentement encore quand les gens sont pris en charge. Beaucoup sont en quarantaine aujourd'hui et ne peuvent même plus quitter leurs appartements. Et donc, on ne sait pas dans quel état ils sont véritablement.
Justement, Karine Milsan, la santé chinoise, est-ce qu'elle fait face? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle est moderne ou est-ce qu'elle est archaïque? Est-ce qu'elle est transparente ou est-ce qu'elle elle ne trouve que ce qu'elle veut chercher?
Elle est les deux à la fois, si vous voulez. La santé, ils ont des hôpitaux qui sont parfaitement performants, comme on peut en avoir en France, mais ce sont une poignée d'hôpitaux. Ce sont ce qu'on appelle les hôpitaux 3A, qu'on pourrait comparer à nos centres hospitaliers régionaux. Donc, eux sont tout à fait performants. Le problème, les médecins qui y travaillent sont des médecins dont la formation correspond parfaitement au type de formation que vous pourrez avoir en France. En revanche, ailleurs, ce n'est pas le cas. Et ça n'est pas le cas non seulement en termes d'équipement, mais ça n'est pas le cas non plus en termes de formation du personnel soignant. C'est-à-dire que si vous êtes dans un centre, un petit hôpital, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui n'a eu que 2 ans de formation. Si vous descendez encore dans une rurale, vous pouvez avoir quelqu'un qui n'a même pas, qui a une formation sans avoir eu son bac, si vous voulez, voyez, vraiment
donc
quelque chose de sommaire.
C'est très inégal, donc j'imagine qu'il y a des gens qui cherchent à aller dans les meilleurs hôpitaux avec les meilleurs médecins.
Exactement, c'est très très inégal et c'est tout le problème. C'est comme les gens ont cette information, c'est pas une information qui est cachée, eh bien l'ensemble des personnes préfèrent aller dans ces grosses structures. Ensuite, en fonction de vos moyens, en fonction de l'endroit où vous habitez, vous allez pouvoir ou non vous rendre dans ces grosses structures. Donc dans les stades que vous énoncez, il y a aussi ça qui se cache. C'est-à-dire que quand vous ne savez pas si vous êtes atteint ou non du virus, même s'il a été énoncé qu'il y a gratuité uniquement pour ceux dont il est avéré qu'ils sont atteints, eh bien alors vous avez tous ceux qui peuvent imaginer ou qui ressentent des symptômes proches de ce qui est décrit, mais à l'idée d'avoir à payer une somme très importante, ils préféreront rester chez eux, et ce sont des cas cachés. Donc vous avez, comme a été dit ici, des gens qui sont dans les hôpitaux mais qui ne sont pas véritablement testés, et puis vous avez tout un pan de la population qui ne vont pas se rendre dans ces hôpitaux parce que le reste à charge, même si vous pourrez trouver qu'il y a une assurance universelle, le reste à charge est beaucoup, beaucoup trop lourd pour une très grande part de cette population.
Antoine Bonda, cette autre chose qui est apparue à l'occasion de ce coronavirus, c'est que ce régime chinois qu'on croyait très fort et vraiment contrôlant sa population, on s'aperçoit qu'il est ébranlé et il paraît même finalement plus vulnérable que ce qu'on imaginait.
Alors, je ne sais pas s'il est vulnérable. Ce qui est sûr, c'est que d'un côté, il y a la mobilisation formidable de l'ensemble des institutions en Chine, premier rang desquels, évidemment, le parti qui met en scène sa mobilisation, mais également l'armée populaire de libération, et puis plus largement les différents ministères à tous les niveaux, central et local. À côté de ça, on a des problèmes qui s'accumulent et une gestion de crise qui est rendue extrêmement difficile, avec une stratégie du gouvernement chinois et du parti qui est en train d'échouer en termes purement politiques. La stratégie initiale, il y a 3 semaines, c'était, entre guillemets, de circonscrire la crise géographiquement et dans le temps, de faire une crise localisée à Wuhan et une crise de courte durée, puisqu'on nous avait annoncé il y a 10 jours que les pics épidémiques, par exemple, devaient être atteints il y a 2 jours.
Oui, le 8 février.
Pas le cas. Cette crise, malheureusement sanitaire, elle est en train de se nationaliser, non pas seulement puisqu'il y a eu des cas décelés dans l'ensemble du territoire, dans l'ensemble des provinces, et notamment dans des préfectures, l'échelon intermédiaire, l'échelon en dessous des provinces, dans l'ensemble du territoire chinois, ce qui explique notamment la différence de traitement entre les différents hôpitaux, mais aussi puisque des mesures de santé publique, des mesures de restriction des déplacements sont prises non plus seulement à Wuhan et dans le Hubei, mais sur l'ensemble du territoire chinois. Les écoles à Shanghai sont encore fermées, de nombreuses usines n'ont pas encore rouvert, je pense qu'on en parlera. Puis il y a des villes qui sont mises en quarantaine, non plus seulement dans le Hubei, ces fameux 60 millions de personnes dont on parlait il y a 2 semaines, mais aussi par exemple à Shenzhen ou dans d'autres villes.
À l'extrême sud,
à Wenzhou,
c'est partout maintenant.
Dans le sud, dans l'est, pas loin de Shanghai, à Wenzhou. Donc cette crise, elle se nationalise. Et deuxièmement, elle s'inscrit dans la durée désormais, puisqu'il est évident que pendant encore plusieurs semaines, il va y avoir une crise. Et ça, évidemment, l'objectif pour le gouvernement chinois et le parti, c'est d'éviter que cette crise sanitaire ne se transforme en véritable crise économique. On en a déjà quelques signes, mais surtout d'éviter qu'elle se transforme en crise politique. Et ça, évidemment, la mort et le décès du médecin Li Wenliang est un des cas, mais il y en aura d'autres dans les jours et les semaines qui viennent.
Alors en France, 5 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés ce week-end dans la petite station de ski de Contamine-Montjoie en Haute-Savoie. Au total, on compte désormais dans le monde plus de 40 000 personnes infectées. La Chine, elle, est toujours au centre des préoccupations, alors que les fêtes du Nouvel An chinois se terminent et qu'une grande partie de la population commence à reprendre le travail. Sujet de Mathieu Lignot et Nicolas Baudry-Diasson.
Ce matin, c'est la rentrée pour des millions de Chinois, après 17 jours de congé pour la nouvelle année. Épidémie oblige, le gouvernement avait prolongé les vacances pour réduire les risques de contamination. Retour au travail à Shanghai, mais sous haute surveillance, notamment dans les transports. La température des voyageurs est contrôlée et ce n'est pas la grande affluence dans la ville.
Chacun prend des mesures de protection. En général, c'est bien et on prend la température de tout le monde en entrant dans la station. Je suis soulagé par ces mesures simples de protection.
Comparé aux derniers jours, il y a plus de monde dans les rues et plus de trafic. Mais comparé à un jour normal, comme avant la propagation du virus et avant le nouvel an lunaire, il y a moins de monde.
Chaque jour, le bilan du coronavirus s'alourdit. Il a contaminé au moins 40 530 personnes dans le monde. 910 en sont mortes. Un décompte plus important que lors de l'épidémie du SRAS en 2003. L'Organisation mondiale de la santé est sur le pied de guerre. Elle a envoyé des experts hier pour enquêter sur l'épidémie. Sur place, dans la région du Hubei, foyer du virus, la situation pourrait s'améliorer.
Il y a une stabilisation dans le nombre de cas rapportés dans le Hubei et une période stable de 4 jours, pendant laquelle le nombre de morts ou de cas diagnostiqués n'augmente pas. C'est une bonne nouvelle.
Mais il est encore trop tôt pour savoir si le pic de l'épidémie est passé. Et l'OMS reste prudente. Le coronavirus, appelé nCoV, pourrait se répandre de plus belle dans d'autres pays.
Il y a eu des cas inquiétants de propagation du virus nCoV par des personnes sans antécédents de voyage. Bref, nous ne voyons peut-être que la partie émergée de l'iceberg.
Car voici les pays où ont été répertoriés des cas de personnes contaminées. Au moins 28 États ou villes du monde, notamment en France, avec 11 personnes infectées. 5 nouveaux cas ont été annoncés samedi. 4 adultes et un enfant de 9 ans, une famille britannique qui a résidé dans cette station de ski des Contamines-Montjoie.
Les enfants qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui sont en bon état général, on va vous demander d'attendre un petit peu.
Sur place, opération dépistage pour une centaine d'enfants qui ont été en contact avec le jeune malade britannique. Certains parents sont inquiets.
Les enfants toussent pas mal et tout, donc c'est vrai que forcément on y pense.
Les 21 premiers résultats des tests sont rassurants. Aucune contamination. Les autres analyses sont attendues dans la soirée. Pour la ministre de la Santé, la France est loin de l'épidémie.
Tous les autres patients sont dans des services de médecine standards, en isolement, et leur état pour l'instant ne fait pas l'objet d'inquiétudes particulières. Il y a d'ailleurs probablement un ou deux patients qui devraient sortir dans la semaine.
Mais pour ces autres Français, direction la quarantaine. 35 ressortissants ont atterri hier en provenance de Wuhan, en Chine. Ils vont passer 14 jours à l'isolement. Même sort depuis une semaine pour les passagers de ce bateau de croisière dans le port de Yokohama au Japon. 135 cas de personnes touchées par le coronavirus ont été détectés. Ce couple de Français raconte son quotidien dans sa cabine.
Nous avons le port obligatoire du masque. Les échanges sont réduits au minimum. Nous sommes inquiets, mais on est deux, on en parle. On pleure, on a une famille qui est proche. Voilà, on a des hauts et des bas.
Le nombre de cas pourrait grimper à bord du bateau, car seulement 10% des 3700 passagers ont été dépistés.
Alors, question téléspectateur, le gouvernement français joue-t-il, lui, la transparence la plus totale ou cherche-t-il à contenir un vent de panique ? Daniel Lévy-Brulle. D'ailleurs, c'est vrai, vous-même, quand vous communiquez, vous avez des consignes ou vous cherchez vos mots pour à la fois informer, mais sans créer la panique. Vous faites attention, les mots sont choisis ?
Oui, bien sûr, on est toujours sur une crête en termes de communication. Il faut être transparent, il ne faut pas mentir. Et en même temps, il faut rassurer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas très difficile de tenir ce double objectif parce qu'on a de quoi rassurer. Aujourd'hui, en France, on n'a pas de circulation du virus dans la population. On est capable de détecter un cas qui arrive avec le virus. Et on l'a montré à plusieurs reprises. Et dernièrement, encore ce week-end, lorsqu'il y a une contamination sur le sol français, on est capable, en un week-end, malgré la difficulté que ça pose, de faire l'investigation, d'identifier toutes les personnes qui ont pu être suffisamment dans un contact proche, de les identifier, de les tester, de les isoler pendant les 14 jours.
Et alors là, en l'occurrence, c'est 5 Britanniques. Alors à ce jour, dont ce petit garçon de 9 ans. D'abord, est-ce qu'on a des nouvelles ? Ils sont tous les 5 hospitalisés en France, hein, Lyon, Saint-Étienne, oui, et Grenoble. Comment se portent-ils, les cinq?
Ils vont tous bien. Ils n'ont aucun de ces cinq cas ne présente de signes de gravité.
Est-ce qu'on sait s'ils ont contaminé? Parce que ce petit garçon de 9 ans a été dans deux ou trois écoles.
Hein. C'est ça.
Trois écoles.
Trois écoles.
Est-ce qu'on sait s'il a contaminé d'autres de ses camarades?
Eh bien, justement, ce week-end, grâce à la mobilisation de l'Agence régionale de la santé, de Santé publique France au niveau national et au niveau des cellules en région, de l'éducation nationale qui s'est fortement mobilisée, on a pu recenser tous les enfants des classes et des écoles fréquentées par cet enfant lorsqu'il était malade. On a pu les classer en ceux qui étaient à risque d'avoir été peut-être contaminés, ceux qui avaient un risque tout à fait faible. On a pu les tester et aujourd'hui, tous les retours des tests sont négatifs. Alors bien sûr, ces enfants restent sous surveillance pendant 14 jours.
Et oui, parce que ce que j'allais dire, la période d'incubation est de 14 jours. Donc on peut être porteur. Est-ce qu'on peut avoir le virus et ça ne se voit pas parce qu'il se déclencherait au bout de 10 ou 12 jours?
Bien sûr, c'est comme toutes les maladies infectieuses, il y a une période d'incubation pendant laquelle le virus se multiplie sans que les symptômes apparaissent. D'où l'idée que des gens qui étaient au contact d'un cas s'isolent pendant le temps nécessaire à être sûr qu'ils ne sont pas justement porteurs du virus sans être encore malades.
Oui, mais alors du coup, là, le virus est peut-être en train de se propager de façon invisible à contamine. On veut affoler personne, mais...
Non, parce que tous les sujets qui ont été en contact suffisamment proches pour être susceptibles d'avoir été contaminés sont maintenant isolés. Et donc, ils ne sont plus susceptibles de contaminer d'autres personnes. Ils sont dans une forme de quarantaine.
Vous comprenez l'anxiété des gens qui vont en vacances, ça contamine les joies dans cette petite station
Peux la comprendre, mais je peux rassurer ces personnes. Le virus ne se promène pas dans l'air. Le virus, il se transmet uniquement à l'occasion d'un contact très rapproché, face à face à moins d'un mètre, ou alors à travers un objet qui aurait été contaminé par un cas et que quelqu'un d'autre toucherait. Mais il faut vivre avec la personne pour pouvoir toucher un objet commun. Donc non, les gens qui viennent aujourd'hui à Contamine ne sont pas à risque d'attraper le coronavirus.
Les rapatriés, les premiers rapatriés là, qui étaient à Carry-le-Rouet, à côté de Marseille, ils étaient une quarantaine.
C'était plus que ça.
Plus que ça, oui. Même, oui. Comment vont-ils? Est-ce que la période d'observation va bientôt se terminer,
oui.
Non?
Oui, ils vont tous bien. Et la période d'observation, cette fameuse quarantaine, va se terminer d'ici la fin de la semaine. Et donc, ils pourront rentrer chez eux.
Preuve que ce virus n'est pas si contagieux.
On ne sait pas très bien. Il y a peut-être des gens qui vont être capables, comme cet Anglais qui est dans le chalet, qui a été à l'origine de 5 cas. Il y a des gens probablement qui excrètent plus de virus que d'autres. On ne sait pas d'ailleurs si c'est lié à la sévérité de la maladie, probablement pas, parce que cet Anglais n'était pas si malade. Et donc voilà, il y a des gens qui excrètent beaucoup de virus, il y a des gens qui en excrètent beaucoup moins. Donc il y a des gens qui transmettent beaucoup, d'autres beaucoup moins. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout spécifique du coronavirus. C'est pareil pour la grippe.
Puisqu'il a... Cet Anglais qui venait de Singapour, il a infecté toute sa famille.
Il n'a pas infecté toute sa famille.
Les quatre. Voilà. Les quatre autres.
Il a infecté même cinq personnes. Puisque...
Ouais. Tout à fait. Et sa mortalité, on a tous été frappés de voir que ce docteur lanceur d'alerte n'avait que 34 ans. Il en est mort. On peut être en pleine forme. Et c'est pas lié à son état de santé initial, apparemment.
Alors, on manque encore de données pour répondre. On ne sait pas si cette situation, on pense qu'elle est plutôt exceptionnelle, parce que d'après les données que les Chinois ont déjà publiées, la très grande majorité des sujets qui sont décédés sont des sujets qui étaient beaucoup plus âgés que ce médecin et qui avaient des maladies chroniques. Ils avaient des maladies du cœur, des maladies du poumon. Donc aujourd'hui, on pense que c'est une maladie qui tue surtout, en très grande majorité, des sujets prédisposés de par un état de santé qui n'est pas un état de santé parfait.
Karine 1100, alors la Grande-Bretagne a décrété aujourd'hui que ce coronavirus représentait une menace grave et imminente pour la santé publique. Ce qui permet, cet état de fait, permet à la Grande-Bretagne, je cite, de pouvoir mettre en quarantaine de force des personnes qui seraient contaminées et qui pourraient constituer une menace pour la santé publique. Ça veut dire qu'on est prêt à prendre des mesures assez autoritaires, y compris dans nos démocraties, pour contenir au maximum ce coronavirus.
Principe de précaution. Mais effectivement, ça pose un grand nombre de questions. C'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans les libertés individuelles pour le bien-être collectif, c'est-à-dire pour la santé de tous, jusqu'où on est capable de restreindre la liberté individuelle. Et quand ça a eu lieu en Chine, on l'a quand même correctement accepté de voir combien de personnes, 50 millions de personnes enfermées, enfin mises en quarantaine dans la province du Hubei. Ça a été acceptable. Et on le justifie en se disant que c'est un État autoritaire, donc ils ont cette capacité. Aujourd'hui, c'est l'Angleterre qui annonce ceci de façon, en le présentant de façon avec un caractère autoritaire. Et ça nous choque plus parce qu'on est beaucoup plus près dans le régime de l'Angleterre que on peut l'être du côté chinois. Mais c'est cette idée de santé publique. Et donc, pour le bien-être global, on étouffe des libertés individuelles.
Ça nous interroge. Et c'est vrai qu'on est choqué de voir que désormais en Chine, on interdit les médicaments qui font baisser la température pour que personne ne masque son éventuelle infection au coronavirus. Au fond, alors, il faut se dénoncer. Et d'ailleurs, je crois qu'on a le devoir de dénoncer son voisin si lui-même est atteint du coronavirus.
C'est une manière de protéger l'ensemble de la population.
Le corps social.
C'est exactement. C'est une manière de protéger le corps social. On n'existe plus pour soi-même, on existe pour la collectivité. Mais en même temps, si je vous dis, quand... au-delà de l'épidémie, dans un temps normal, quand on se balade en Asie, il est normal de se faire prendre la température lorsqu'on arrive dans un pays, à l'aéroport. Et donc, il y a quand même un comportement d'un certain nombre de passagers qui se savent potentiellement malades et qui prennent un paracétamol pour faire taire la température au moment où ils vont passer la douane. Enfin, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Donc, on est juste là à un comportement individuel qui est de sauvegarde, de pouvoir passer à travers la grille. Et là, ce qui est décrété, c'est un comportement global, collectif, vraiment de santé publique, où on considère que l'individu doit être défait de toute décision personnelle pour le bien-être collectif.
On touche là du doigt ce qui fait l'essence hein, des sociétés plus asiatiques ou chinoises, où le corps social l'emporte sur l'individu, oui. C'est ça ?
Alors, je ne sais pas si on peut dire société asiatique. Alors, là, je chinoise. Pense qu'on est vraiment lié là à quelque chose qui est aussi lié à la nature du système politique en Chine, qui est cette réaction en apparence extrêmement très puissante. On boucle tout. On boucle une province, on boucle une ville, on boucle la région du Zhejiang dont on parlait, qui est le cœur économique de la Chine. Et puis ensuite, on a un cafouillage absolument incroyable au niveau local, où certaines municipalités vont décider d'enfermer les gens. J'ai entendu parler, peut-être qu'Antoine pourra le confirmer, de gens enfermés de l'extérieur dans leur appartement pour qu'ils ne puissent pas sortir.
Je le confirme, c'était un sujet sur France 2.
Mais que se passe-t-il en cas d'incendie ? Aucune réponse. Des femmes, parce qu'on a des vidéos hein, qui montrent, par exemple, la ville de Wuhan, assez tragique, avec des gens qui crient par la fenêtre en disant « Mon mari est en train de mourir, que puis-je faire ?» Et personne ne vient au secours. Donc, cet autoritarisme cafouilleux, je dirais, on voit que ça n'a pas du tout stoppé l'épidémie, ni la panique. Au contraire, ça l'a amplifié. Et il y a des phénomènes de fuite, par ailleurs, des gens qui font tout pour échapper et s'enfuir de ces zones.
Il n'empêche, Daniel Lévy-Brulle, Corinne Milsan disait « Les Chinois acceptent au nom de la défense du corps social des mesures autoritaires ». Est-ce que c'est des questions que vous êtes en Europe, on est amené à se poser ? Jusqu'où peut-on imposer, dans une société individualiste, dans des sociétés individualistes comme les nôtres, jusqu'où peut-on imposer ou la population acceptera-t-elle des mesures autoritaires pour prévenir une propagation de la maladie ?
Je ne peux pas répondre à cette question de manière générale. Ce que je peux simplement dire, c'est que dans toutes les investigations que nous avons menées autour des cas, il y a eu effectivement des contacts que nous avons qualifiés de gens susceptibles d'avoir été affectés, à qui il a été demandé de respecter une quarantaine stricte pendant 14 jours en s'isolant à domicile. Et à ma connaissance, il n'y a eu aucune difficulté à ce que les gens acceptent cette contrainte.
Et vous pensez que les gens accepteraient, par exemple, de se plier à, je ne sais pas, si on devait boucler une ville, etc. Non, mais c'est des questions qui se posent ou pas ?
Ce n'est pas une question pour un épidémiologiste, c'est une question pour un sociologue. Pour un politique.
On est capable peut-être d'avoir une gestion plus fine de l'épidémie dans nos sociétés qu'en Chine. C'est aussi ça la différence.
Et les aspects économiques.
Question.
Enfermer quelqu'un, il ne va plus travailler. Donc, en tant que c'était autant de nouvelles en chinois, c'était acceptable. De toute façon, il était...
Et là, c'est la reprise.
Là, c'est très, très différent. Vous allez faire quoi ? Vous allez le mettre, lui demander de prendre des congés sans solde, ce qu'on a déjà observé.
Et d'ailleurs, Antoine Bondaz, la ville de Wuhan est toujours en quarantaine. Combien de temps comme ça peut durer une quarantaine ? Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas des problèmes de logistique, de ravitaillement d'eau potable et de nourriture, non ?
Alors, la logistique à Wuhan est sous l'autorité aujourd'hui de l'Armée populaire de libération, qui est en charge d'approvisionner et d'acheminer la logistique jusqu'à la ville, que ce soit évidemment les équipements de protection qui sont indispensables pour les personnels de santé, qui sont présentés en Chine très fortement dans les médias comme des anges blancs, ou en tout cas des soldats sur le front face à la guerre contre l'épidémie. Il y a toute une rhétorique qui est mise en place. Donc là, ouais, encore une fois, l'Armée populaire de libération a un rôle très important. Plus largement, on parlait tout à l'heure du principe de précaution, il y a quand même beaucoup chez les citoyens chinois aujourd'hui un principe de responsabilité. Les gens ont conscience que limiter ces déplacements est acceptable à court terme, puisque cela peut permettre non seulement de limiter l'épidémie, et puis surtout de ne pas être infecté. Il y a aussi un comportement très individualiste.
On est obéissant parce que c'est aussi une défense.
C'est aussi l'intérêt de ceux qui sont au cœur aujourd'hui de l'épidémie à Wuhan ou dans le Hubei. Un autre aspect qui est important, qu'il faut le rappeler, c'est qu'il y a évidemment un mécontentement, par exemple, suite au décès du médecin Li Wenliang, mais qu'il ne se traduit pas forcément par, pour l'instant, une remise en cause de l'ensemble du système chinois et de la crédibilité et de la légitimité du parti. Ce qui est sûr, c'est que ce décès est très symbolique parce qu'il expose pour de nombreux Chinois les failles dans la gouvernance, les conséquences néfastes de la censure. Et puis, c'est quelqu'un qui avait été médiatisé par les médias chinois. Donc, évidemment, son décès n'avait pas été anticipé par les autorités centrales et locales. Et son décès a eu une importance aux yeux de la population, qui aujourd'hui est inquiète. Il y a une véritable anxiété. Et pour vous citer une conférence de presse qui a eu lieu à Shanghai en milieu de semaine dernière, la propagande à Shanghai considère que cette anxiété, elle est acceptable, mais qu'il faut que cette anxiété soit modérée. Et donc, la recommandation politique, c'est que les informations sur l'épidémie et sur le virus ne soient que 40% de l'ensemble des informations auxquelles les personnes à Shanghai sont exposées chaque jour. Donc, l'idée, c'est qu'il faut parler du virus, mais ne pas parler que du virus, afin de légitimer cette anxiété, mais qu'elle soit modérée.
Et c'est vrai que ce qui est effrayant, Daniel Lévy-Bruhl, avec le virus, c'est que ça ne se voit pas. En revanche, on voit bien les combinaisons, on se dit « oh là là, il doit... » Pour qu'on s'en protège de la sorte, c'est que ce virus doit être effrayant. Est-ce que dans vos services, vous continuez à vous serrer la main ou est-ce qu'on commence à mettre en place des procédures ainsi pour essayer de minimiser les risques de propagation ?
Il y a deux situations. Il y a la situation où il n'y a pas de cas qui était identifié. Dans ce cas-là, la vie continue, bien entendu, comme d'habitude. Et puis, autour d'un cas, des précautions tout à fait strictes sont prises pour protéger en particulier les professionnels de santé, éviter qu'ils se contaminent. Et donc là, bien entendu, par exemple, par l'expression, ça ne rigole pas. Là, c'est les précautions maximum autour des cas.
Question téléspectateur. Est-il vrai que petit à petit, les Chinois reprennent le travail? Et si oui, n'est-ce pas une folie? Valérie Niquet, aujourd'hui, c'était la fin des vacances officiellement qui ont été rallongées déjà.
Oui, mais d'après... alors évidemment, on n'a pas toutes les informations, mais d'après les échos qu'on a, c'est qu'on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, c'est que la reprise est extrêmement modérée. Alors c'est vrai aussi que ça pose un problème économique majeur en Chine, y compris par les gens qui sont employés et qui se retrouvent sans travail et donc sans ressources. Hein. La Chine n'est pas un pays où il y a un système de prise en charge sociale massif, et notamment, je pense, à l'agriculture, ou alors au petit commerce dans les villes, enfin, toutes ces choses-là, les PME, où là, effectivement, si on n'a pas de travail, on n'a pas de ressources. Donc, c'est un problème majeur, mais en dépit de ça, on voit bien que, dans les grandes villes, en tout cas, l'activité semble très réduite. Antoine Bondaz le rappelait, les écoles sont toujours fermées jusqu'à la fin du mois de mars dans les grandes villes. Encore une fois, c'est les provinces, vraiment, les zones de production de la machine industrielle, quasiment la moitié de la richesse du PNB de la Chine, c'est encore la production industrielle. Donc, en fait, toute cette zone-là qui est touchée. Et les conséquences sont importantes. Et dans la vie quotidienne, évidemment, pour les gens, c'est un défi. Pour le pouvoir, c'est un défi.
Mais qui décide ? C'est l'État tout-puissant qui dit, tiens, vous rouvrez ou là, vous ne rouvrez pas ?
Alors, en fait, il y a des systèmes d'autorisation, effectivement. Et on a vu des entreprises qui souhaitaient ouvrir à nouveau, notamment celles qui sont liées à Apple ou ce genre de choses, mais qui ne peuvent pas ouvrir. Et il faut voir que les usines en Chine, c'est des milliers et des milliers de gens dans les grands centres. Donc, c'est-à-dire que les risques de contamination, effectivement, sont importants.
Daniel Lévy-Bruhl, c'est dangereux, vous trouvez, de réouvrir, de rouvrir ainsi des usines qui vont draguer des milliers de gens, à Foxconn, etc.
Ça dépend où. C'est sûr que l'épidémie à Wuhan justifiait des mesures assez drastiques comme celles qui ont été mises en œuvre. Il reste à savoir quelle est la dynamique dans chacune des provinces. Aujourd'hui, on n'est pas totalement rassuré sur le fait qu'il puisse se répéter dans les autres provinces un scénario qui avec le décalage du temps, serait aussi sur des épidémies de grande ampleur. Et bien entendu, dans ces cas-là, les mesures telles que celles-ci, qui permettent d'éviter que les gens se rassemblent dans une promiscuité favorable à la transmission, sont bien sûr les bienvenues. Si, moi, je mets de côté les aspects économiques qu'il y a derrière, mais d'un point de vue sanitaire, c'est plutôt une bonne chose, bien sûr.
C'est déjà le cas, hein, dans beaucoup de provinces comme Hangzhou, autour de Canton, le Zhejiang, Suzhou, enfin, Shanghai, c'est vraiment déjà les zones les plus touchées après le Hubei. Et encore une fois, c'est le cœur économique de la Chine.
Et Karine Milsan, quand on voit l'OMS qui envoie son spécialiste de l'Ebola pour faire le point, le même OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit que ça n'est peut-être que le sommet de l'iceberg, tout ça quand même envoie des... On parlait de l'importance du verbe et de rassurer, de ne pas semer la panique. Ce sont quand même ça des éléments qui sont de source à inquiéter les Chinois, de nature à inquiéter les Chinois.
Ou inquiéter l'extérieur, l'international également. Effectivement. Le fait est que, comme on disait, il y a cette période très particulière qu'il ne faut jamais négliger. On était vraiment dans le nouvel an chinois. Les gens étaient déjà, au moment où on a mis en quarantaine la province de Hubei, on était déjà dans une situation où beaucoup de gens étaient repartis voir leur famille. Donc, on ne peut pas réellement savoir ce qui va se passer maintenant. Ces personnes doivent revenir pour travailler. On ne connaît pas complètement leur état potentiel de santé et ce qui va se passer. On ne sait pas non plus, en dehors de la province de Hubei, dans les zones rurales, ce qui a pu se passer. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure sur le système de santé chinois.
Qui est très faible,
vous le disiez. Exactement. Donc du coup, on a cette forte incertitude qui fait que, oui, on sait dans les zones urbaines, on sait à peu près, on a les chiffres, on sait. Maintenant, quand cette population-là va revenir, eh bien, c'est cette fameuse partie de l'iceberg qui est cachée et on espère qu'elle soit la plus petite possible, mais on ne sait pas trop, quoi.
Le virus se propage donc et les critiques contre le gouvernement chinois se multiplient. Depuis le décès du lanceur d'alerte Li Wenliang, les autorités sont accusées d'avoir caché la vérité à la population, quitte à favoriser l'expansion de l'épidémie. Alors, pour rassurer les Chinois et reprendre le contrôle, c'est le président Xi Jinping en personne qui est allé au contact des habitants de Pékin. Sujet de Juliette Perrault et Christophe Roquet.
Sur un air de piano diffusé à la télévision chinoise, Xi Jinping se fait prendre la température, le visage recouvert d'un masque de protection. L'image d'un leader proche de son peuple et qui se montre combatif.
Nous allons nous battre avec la plus grande fermeté. Nous allons nous battre pour les gens. Nous devons prendre confiance, nous allons gagner, c'est sûr.
Images inédites depuis le début de l'épidémie de coronavirus qui frappe la Chine. Plus d'un mois après le début de la crise, les autorités en appellent à la coopération et la solidarité nationale.
Il faut que toute la société accorde davantage de soins et d'attention au personnel médical, s'unisse et travaille ensemble pour surmonter la difficulté et gagner la bataille de la prévention et du contrôle.
Une bataille pour laquelle le pays est prêt à prendre des mesures drastiques. À Wuhan, ville fantôme depuis 19 jours, les habitants restent confinés chez eux, incités à surveiller et dénoncer leurs propres voisins. 800 km plus à l'est, à Shanghai, le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics. De nombreux établissements restent fermés. Au sud, la ville d'Hangzhou a, elle, décidé d'interdire la vente de médicaments contre la fièvre et la toux pour encourager les personnes souffrant à se rendre directement dans les hôpitaux. Une crise sanitaire sans précédent, une épreuve politique majeure pour le régime communiste chinois. Vendredi dernier, le coronavirus a fait une nouvelle victime, Li Wenliang, un jeune ophtalmologue de 34 ans, l'un des premiers à avoir alerté sur l'apparition de l'épidémie. À l'époque, il avait été accusé de diffuser des fausses rumeurs. Le médecin est aujourd'hui devenu un symbole, celui de la lutte contre l'opacité du système chinois. À Hong Kong, plusieurs dizaines de personnes ont participé à une veillée funèbre pour lui rendre hommage.
Il voulait dire la vérité, mais malheureusement la vérité n'a pas éclaté assez tôt. Et c'est comme ça qu'on en arrive là.
Le gouvernement fait les choses en secret et voilà ce qui arrive. C'est la différence entre une société démocratique et une société sans démocratie.
Un décès également largement commenté sur les réseaux sociaux chinois. Une avalanche de messages de tristesse et de colère. Et un mouvement de contestation qui grandit contre les autorités et leur gestion de la crise. En première ligne, certaines figures comme cet activiste, un avocat reconverti en journaliste, qui rend compte depuis Wuhan de la situation sur place et dans les hôpitaux.
Il n'y a pas assez de masques, il n'y a pas assez de vêtements de protection, il n'y a pas assez de matériel médical. Hier, j'ai vu une personne morte à l'hôpital, elle était morte sur une chaise. Si je survis ici, je raconterai tout ce que j'ai entendu et vu. Gouvernement chinois, je n'ai pas peur de vous.
Mais depuis jeudi dernier, plus aucune trace de l'activiste. Sa mère a lancé une alerte sur les réseaux sociaux.
Chen Qiuxi a disparu depuis 7 heures du soir hier. Il est venu à Wuhan pour couvrir l'épidémie de coronavirus. Sa famille et ses amis sont très inquiets.
De plus en plus contesté par le biais d'applications ou sur les réseaux sociaux, les autorités chinoises ont annoncé la mise en place d'une supervision spéciale pour contrôler plus strictement les informations diffusées en ligne.
Antoine Bondaz, on est surpris, on croyait que les Chinois étaient sous contrôle. Là, on a vu un internaute menaçant le gouvernement. Il a dit « gouvernement chinois, méfiez-vous ». On peut protester librement, finalement, en Chine, c'est ce dont on s'aperçoit.
Il faut bien préciser qu'en Chine, vous avez des mécontentements qui peuvent s'exprimer de façon physique, des rassemblements qui peuvent s'exprimer sur les réseaux sociaux. Vous avez des dizaines de milliers de rassemblements chaque année, des sortes de manifestations qui critiquent avant tout les autorités locales, puisque la ligne rouge, c'est de ne pas critiquer le système, c'est-à-dire l'autorité, la légitimité du parti. On a eu de nombreux cas aussi sur les réseaux sociaux, par exemple en 2011, suite au déraillement d'un train à grande vitesse à Wenzhou, ou plus récemment sur les différents scandales alimentaires. Ça, c'est autorisé, mais canalisé. Le but, c'est ne pas d'interdire complètement le mécontentement, mais en tout cas de le canaliser et d'éviter, encore une fois, qu'on critique l'État central. Ce qui s'est passé depuis jeudi, vendredi et qui continue désormais, c'est que vous avez de nombreux Chinois qui, sur les réseaux sociaux, Weibo, WeChat et autres, expriment un mécontentement et veulent qu'il y ait des responsables. J'ai de nombreux amis qui, généralement, ne remettent jamais en cause l'autorité du parti, qui commencent à dire « ce ne sont pas simplement les autorités locales qui ont fait des erreurs, c'est peut-être aussi au niveau plus central ». Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être nouveau en Chine. Est-ce que ça va remettre en cause l'autorité du parti ? Pas sûr, mais c'est suffisamment important pour que Pékin ait décidé d'envoyer une équipe spéciale, entre guillemets, depuis Pékin, de la commission de discipline et d'inspection du comité central du parti. C'est un peu l'autorité qui supervise et qui vise la lutte anticorruption en Chine, un peu la police du parti, qui a été envoyée à Wuhan. Le but, c'est d'identifier des responsables et surtout, pour calmer le mécontentement, de faire tomber des têtes au niveau local.
Mais il n'y a pas une censure qui s'exprime sur les réseaux sociaux ? Pourquoi il n'y a pas ces messages de protestation ?
Il y a évidemment une censure sur... ça peut être non seulement l'évolution de l'épidémie, c'est ce qu'on avait vu dès la fin du mois de décembre. Il faut bien préciser que le docteur Li Wenliang n'avait pas cherché à alerter l'ensemble de la population chinoise. Il en a avant tout parlé avec ses amis de promo, ses camarades de promo. À Wuhan, une partie des discussions a été tombée dans le domaine entre guillemets public et avait été relayée sur les réseaux sociaux. Et c'est là où il a été, obligé de se taire. Il a signé un papier comme quoi c'était des rumeurs et il fallait se taire. Et ça, c'est extrêmement important pour les autorités chinoises, contrôler encore une fois le flux d'informations.
Valérie Niquet, des universitaires ont posté une lettre ouverte appelant à faire du 6 février, qui est le jour de la mort de Li Wenliang, la journée nationale de la liberté d'expression. Par quel phénomène la propagation d'un virus aboutit-elle à une revendication pour plus de démocratie et de liberté d'expression ?
Parce que, bon, comme le disait Antoine, mais j'irai peut-être un peu plus loin, je pense que là, on est au-delà de la critique au niveau local, y compris dans la population chinoise, et que de toute façon, il y a un mécontentement qui ne s'exprime pas toujours en Chine, mais qui est très profond, qui explique pourquoi les Chinois émigrent en masse ou envoient leurs enfants étudier à l'étranger. Ce n'est pas un pays qui est très satisfaisant pour sa population, même s'il y a des opportunités. Et quand ça va mal, quand le parti ne respecte pas ce contrat social qui est d'assurer la sécurité de la population et la croissance économique en échange d'un contrôle politique, eh bien, ça ne va plus. Et là, on est en plein échec de ce parti qui se présente comme très fort. Xi Jinping, qui avait totalement disparu pendant plusieurs jours, enfin une période assez longue, réapparaît en parlant de la guerre, on pourrait même parler de guerre prolongée, c'est les termes maoïstes, contre le virus, mais on voit bien que ça patine, c'est-à-dire qu'on ferme des zones entières, ça n'est pas forcément efficace, et l'épidémie progresse, et les médecins surtout s'expriment ouvertement sur Internet, expriment leur angoisse, leur propre angoisse devant leur incapacité à soigner, à prendre en charge tant de malades, et si, évidemment qu'il y a une censure en Chine, mais il y a une telle masse de protestations sur Internet que même la censure chinoise qui est basée sur des dizaines de milliers de gendarmes du net, ce qu'on appelle, qui sont payés au tweet ou à je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, je suis trop vieille pour au poste. Oui, voilà, au poste pour rétablir la vérité, eh bien, ils n'arrivent plus à suivre, en fait. Et eux-mêmes sont peut-être pas vraiment convaincus de la nécessité d'aller contre ce mécontentement. Et j'ai récemment, en Chine, certains...
Donc avec les réseaux sociaux, on ne peut plus tenir la parole d'un peuple.
On le tient, plus difficile. On le tient, mais quand ça prend une telle proportion, ouais, c'est difficile. Et certains disaient que pour le pouvoir chinois aujourd'hui, et notamment pour Xi Jinping, qui a tout de même beaucoup de casseroles, hein, auprès, y compris au sein du parti, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas été d'un succès extraordinaire pour l'image de la Chine. Eh bien, pour lui, la crise est peut-être aussi importante que celle de 1989 l'avait été pour le pouvoir au moment des révoltes place Tiananmen, qui là aussi avait eu des appels à la démocratie. C'est un vrai défi pour le pouvoir chinois.
Mais c'est vrai que Xi Jinping, contrairement à ses prédécesseurs, avait un discours très autoritaire à la fois à l'intérieur, je suis le chef, et même vis-à-vis des États-Unis, nous sommes les meilleurs et nous imposons notre diktat. On a l'impression que ça lui revient en boomerang, cet autoritarisme.
Alors c'est le risque, il est obligé de montrer, de mettre en scène la détermination totale du parti pour faire face à cette épidémie. Les messages vers l'étranger sont peut-être d'une autre nature. Le but est aussi de faire diversion, de critiquer les États-Unis, de montrer entre guillemets les bons amis de la Chine, le Pakistan, le Cambodge, la Birmanie, et puis d'autres pays qui seraient évidemment pas forcément les bons amis de la Chine, notamment les États-Unis. Et là, évidemment, ils reprennent les différentes déclarations, parfois malheureuse, de certains hommes politiques américains qui disaient que c'est peut-être une bonne opportunité pour les États-Unis qu'il y ait cette épidémie en Chine.
Ah, ça a été dit aux États-Unis, ça.
Oui, vous avez par exemple Mike Pompeo qui a souligné que ça pouvait potentiellement être une
de
opportunité.
De fragiliser la
Chine. Alors, c'est quelque chose qui... C'est un fait, mais c'est toujours difficile de le dire publiquement quand vous avez aujourd'hui des dizaines de millions de Chinois qui sont affectés directement et que vous avez des milliers de morts. Ce qui est également important pour le parti, c'est évidemment de contrôler les réseaux sociaux, mais ils ne peuvent pas bloquer les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui en Chine sont importants dans la vie de tous les jours, mais ils sont encore plus importants aujourd'hui quand vous avez des dizaines de millions de personnes qui ne peuvent plus sortir, où vous n'avez plus de liens sociaux physiques. Et donc le seul moyen de contacter votre famille, de contacter vos amis, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Si demain vous coupez les réseaux sociaux, vous avez des gens qui vont rester chez eux, qui n'auront strictement rien à faire, qui n'auront aucun moyen de communiquer avec leurs amis, avec leur famille. Et là, c'est la recette assurée pour que vous ayez pour le coup un mécontentement qui s'exprime de façon de plus en plus ouverte et de plus en plus physique vis-à-vis des autorités locales et in fine vis-à-vis des autorités centrales.
Question téléspectateur, dans la lignée de ce que vous disiez à l'instant, Xi Jinping joue-t-il sa crédibilité à l'international? Est-ce que, finalement, on se rend compte que cette Chine qui nous promettait un avenir radieux, elle est moins forte et elle est plus vulnérable que ce qu'on croyait?
Mais là, effectivement, alors quand on travaille sur la Chine depuis longtemps, c'est vrai qu'on voit, on connaît les faiblesses de la Chine. Beaucoup de Chinois le reconnaissent eux-mêmes. Mais la stratégie de Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir en 2012, ça a été de projeter, et encore une fois, pour une logique qui est de légitimation interne du Parti communiste. La légitimité du parti, c'est la croissance économique et l'image de puissance, la fierté nationale, la revanche sur le passé. Donc il a tout appuyé. Puis tout assis là-dessus, parce que aussi la Chine, en s'ouvrant, évidemment, la grande crainte, la peur essentielle, la menace principale pour le pouvoir chinois, c'est le changement de régime. Les révolutions de couleur, tout ce qui s'est passé dans les pays arabes, ça leur a fait extrêmement peur, l'effondrement de l'URSS. Donc il fallait tenir la société et en insistant sur le nationalisme, la puissance de la Chine. avec ces routes de la soie, la Chine, ils ont un modèle pour le monde entier, on s'aperçoit aujourd'hui que derrière, il y a un côté un peu Potemkin, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des éléments de puissance en Chine. Il ne s'agit pas du tout de nier les progrès qui ont été accomplis, mais c'est un pays qui reste extrêmement fragile, y compris dans la capacité de gestion d'une crise majeure et qui est une menace réelle pour le système lui-même, et surtout que le système n'avait pas vu ou n'avait pas su venir et pas su anticiper en dépit de cette crise du SRAS qui avait eu lieu en 2003. C'est-à-dire qu'il y a eu des progrès qui ont été accomplis, mais on voit que ces progrès ne sont pas du tout à la mesure du développement de la Chine, que la Chine a connu pendant ces années.
Alors l'image de la Chine est ternie à l'international. Ce qui est plus tragique, c'est que la communauté chinoise, y compris en France, est stigmatisée. Daniel Lévy-Bruhl, je ne sais pas si vous en avez été témoin au service des urgences, il paraît que les restaurants chinois sont désertés. Et je lisais là, dans un reportage en Angleterre que les Chinois se faisaient traiter de mangeurs de chauves-souris en Grande-Bretagne. C'est triste et c'est injuste, non ? Enfin, je veux dire...
Bien sûr, oui, c'est une inquiétude que nous avons, hein, cette discrimination qui est fondée, bien sûr, sur aucune réalité épidémiologique.
Et le virus ne se transmet pas dans les restaurants chinois, et quand bien même, il y aurait eu toute une communauté de Wuhan qui serait venue juste avant.
Hein? Ah bah, si vous dînez à côté de quelqu'un qui vient de Wuhan et qui a le virus, effectivement, vous allez devenir un contact qu'on va suivre avec beaucoup d'attention. Ouais. Mais en dehors de cette situation très particulière, non, bien entendu.
Bien. Alors, l'épidémie de coronavirus pourrait bien avoir des conséquences économiques importantes chez nous. La France compte plus d'un millier d'entreprises implantées sur le sol chinois. Mélanie Nunes et Thomas Buyer sont allés visiter une PME du Puy-de-Dôme qui perd 30 000 euros de chiffre d'affaires par jour depuis l'arrêt de son usine en Chine fin janvier.
Ouais, donc on a une carte de Chine ici où on peut voir Suzhou, donc la ville dans laquelle notre société est implantée, et l'épicentre, donc Wuhan, qui se situe ici.
C'est une entreprise familiale, née en Auvergne il y a plus d'un siècle, implantée en Chine depuis 13 ans. Sa spécialité, l'emballage médical et pharmaceutique, confectionné dans ces pièces stérilisées qui protègent de la moindre poussière.
Donc on a 7 salles blanches à l'intérieur de ce bâtiment en France. Et notre pendant, donc l'équivalent de la société chinoise, elle, a une seule salle blanche qui fait un peu plus de 500 mètres carrés.
Une usine dédiée au marché chinois, fermée depuis le 24 janvier dernier. Elle embauche une cinquantaine de salariés chinois, tous placés aujourd'hui à l'isolement. Un vide dans les caisses de cette société qui inquiète. Le site en Chine représente 10% de son chiffre d'affaires total.
Donc chaque jour qui passe, passé à ne pas produire, on a un manque à gagner de 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et on doit aussi, pendant cette période, rémunérer nos employés, puisque ça c'est une directive du gouvernement chinois qui a donné la responsabilité aux entreprises de rémunérer les salariés pendant cette période de fermeture forcée dans laquelle on est aujourd'hui.
Son activité en Chine progresse d'environ 15% chaque année. Pas question pour l'entrepreneur de renoncer à ses rêves de conquête de l'empire du milieu. Alors, mieux vaut se conformer aux attentes des autorités chinoises.
Un document qui est en chinois et en anglais.
Tous les jours, il reçoit des instructions très précises. La Chine oblige les entreprises à veiller à la santé de ses employés.
Donc vous voyez qu'on a 51 personnes qui travaillent et pour lesquelles on doit notamment regarder quel a été le dernier relevé de température qui a été fait, si les personnes ont des symptômes de toux ou de maladie quelconque. On doit s'assurer que les personnes n'ont pas été dans la province du Hebei dans les 14 derniers jours. On se plie au jeu, hein, puisque nous, on n'a pas la volonté d'aller contre les directives qui sont données.
Des renseignements très détaillés, collectés sur place grâce au directeur du site à Suzhou.
C'était pour faire un petit point avec toi sur la situation en Chine.
Ils élaborent en ce moment des protocoles de sécurité pour pouvoir rouvrir l'usine.
On est en train de déployer effectivement toute une série de procédures pour strictes pour désinfecter, pour éviter, minimiser les risques de contamination. Et puis après, on va découvrir quels sont les approvisionnements qu'on peut avoir. Nous ne sommes pas à l'abri de ruptures d'approvisionnement, matières premières, moules et autres.
Les autorités chinoises pourraient donner leur accord pour une ouverture d'ici quelques jours, mais avec seulement la moitié de ses salariés. Un retour vers la normale qui soulagerait cette petite PME du Puy-de-Dôme, fragilisée par l'épidémie.
Alors, question téléspectateurs, les nombreuses marchandises en provenance de Chine représentent-elles un risque pour les entreprises françaises qui en sont tributaires ? Valérie Niquet.
Oui, évidemment. Et également, la Chine était devenue le marché principal, la source de toutes les opportunités pour beaucoup de secteurs. Alors même, on pense au tourisme, les grands magasins également, qui avaient énormément de clients chinois et qui devenaient une part très très importante de ce marché.
Et même des étages réservés pour les Chinois.
Et cette idée que beaucoup ont tout tablé sur la Chine avec effectivement des taux de croissance extraordinaires, des facilités quand on n'a pas de problème avec les autorités. Vraiment, les choses sont efficaces en Chine. Mais c'est un système, encore une fois, qui, par sa nature même, est très vulnérable. Alors, je ne dis pas que les épidémies ne peuvent pas apparaître ailleurs, mais quand on a tellement concentré, à la fois en termes de marché potentiel, et surtout, là, je pense à l'Allemagne notamment, fabricants de pièces détachées, donc des secteurs entiers qui se trouvent à l'arrêt et dans le monde entier. Et puis alors, évidemment, tous les biens de consommation, le secteur de la distribution, on pense à l'électroménager, aux téléphones portables, aux chaussures, aux vêtements, tout ce système de consommation rapide qui a été mis en place avec des chaînes de production extrêmement rapides, et on change, par exemple, dans la mode tous les 2 mois, toutes ces grandes entreprises qu'on connaît sont très, très tributaires d'un système de production chinois efficace, mais efficace quand il n'y a pas ce grain de sable terrible du virus et avec un pouvoir qui a beaucoup de mal à le gérer.
Efficace, il n'empêche, Karine Milsan, on parlait quand même de relocalisation. Est-ce que ce virus ne pourrait pas accélérer un processus qui consistait à dire, écoutez, on va arrêter cette grande chaîne de valeur internationale là où le pot de yaourt fait 3 fois le tour de la Terre avant d'arriver dans notre frigidaire, on va essayer de revenir un peu plus de local. Ben là, on s'en rend compte qu'il faut revenir, qu'il est urgent de revenir un peu plus de local dans la chaîne de valeur.
C'est une idée en circulation. Maintenant, elle était d'ailleurs en circulation avant même l'apparition de l'épidémie. Maintenant, c'est sa réalisation qui pose problème. Le coût de production n'est pas
comment
le même.
Comment rapatrier en Europe, en France, les téléphones portables.
Le coût de production n'est pas du tout pareil. Là, on ne parle pas de l'objet fini, on parle de composants semi-finis qui vont venir compléter. Donc même si votre téléphone il est produit plus localement, il n'en reste qu'il y a un grand nombre de ces composants qui sont encore produits un peu partout dans le monde, et notamment en Chine. Donc là, à court terme, c'était davantage l'idée que des marchés tels que le Vietnam puissent profiter en fait de cette crise pour développer également et être une usine secondaire, de manière à pallier ce qui se passe actuellement en Chine et permettre cette chaîne de production mondiale d'arriver aux produits finis.
Antoine Bondaz, la Chine, alors on a vu sur le plan politique, est un peu ébranlée par le coronavirus. Sur le plan économique, la croissance était en train de ralentir. On dit que l'économie chinoise est très endettée. Est-ce qu'au fond, ce trou d'air économique ne pourrait pas faire éclater la bulle chinoise, si tant est qu'il y ait une bulle de l'endettement?
Alors, sur l'endettement, tout dépend de qui va détenir cette dette chinoise. Ce qui est très important avant, c'est que s'il y a un ralentissement de l'économie chinoise, l'impact est de fait un impact mondial. Il faut vraiment toujours rappeler ça. Aujourd'hui,
et on va le sentir, y compris en France,
années, évidemment, puisque aujourd'hui, 30% de la croissance mondiale, elle est due à la Chine. Donc, un ralentissement de la croissance en Chine, mécaniquement, ralentit l'économie mondiale. Deuxièmement, Valérie Niquet le rappelait, la Chine est parfaitement intégrée dans les différentes chaînes de valeur sur le plan international, et donc des entreprises en Chine ou à l'étranger qui dépendent de composants chinois vont être impactées. Ils n'ont pas été impactés en réalité dans les premiers jours de l'épidémie pour une raison simple. La majorité du transport international, transport de marchandises, se fait par bateau. Évidemment, le jour où le bateau est parti de Shanghai, le temps d'arriver au port du Havre, vous avez 14 jours. Donc l'effet en fait des bateaux qui ne peuvent plus partir depuis 2 semaines va commencer à se sentir maintenant. Et donc c'est vraiment maintenant que l'impact concret sur les usines va être ressenti en France ou à l'étranger. avec ensuite un impact qui est très important, qu'il ne faut pas du tout comparer au SRAS. Ça a souvent été l'erreur initiale dans les différentes banques d'investissement ou pour certains économistes de comparer à l'impact du SRAS, puisque le SRAS avait eu un impact avant tout en termes de consommation. Vous pouvez avoir un rebond de la consommation quand la crise est de courte durée. Là, une crise qui touche aux chaînes de valeur a un impact équivalent à ce qui s'était passé plutôt en 2011 au Japon. Suite au tremblement de terre.
Le SRAS, c'était en 2004, et à l'époque, la Chine était beaucoup moins intégrée à l'économie mondiale. C'est ce que vous voulez dire.
C'est un premier point. Deuxième point, c'est que de nombreuses usines n'avaient pas été fermées sur le territoire chinois. Là, on a de nombreuses usines qui sont fermées dans une Chine qui produit beaucoup plus et qui est beaucoup plus intégrée qu'il y a 15 ans. Et donc, il faut plutôt comparer ça à 2011, Japon, 2011, Thaïlande, des inondations, qui avaient eu des impacts très directs sur les chaînes de production internationales.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Une grande partie de nos médicaments viennent de Chine. Faut-il s'inquiéter d'un tel abandon de souveraineté? Antoine Bondaz, on dit que 90% de la pénicilline, donc ce qui fait les antibiotiques, est fabriquée en Chine.
C'est indirectement l'opportunité de ces crises de réaliser notre dépendance à certains marchés et de diversifier, comme c'est un principe de base en économie, que ce soit la finance ou l'économie en général, de diversifier ces sources d'importation. 90% de la pénicilline vient de Chine, plus de 50% de l'ibuprofène et du paracétamol viennent de Chine. Donc à court terme, l'impact va être faible, mais ça pose une question de notre dépendance, évidemment, au marché chinois.
Daniel Lévy-Brulle, on s'est mis à risque, là. Vous avez des stocks de médicaments
Alors, l'Agence nationale de sécurité du médicament est tout à fait attentive à la gestion des stocks et anticipe les difficultés potentielles que pourrait faire peser la prolongation de la crise.
On est très dépendant des Chinois,
bien
donc.
Sûr,
hein.
Bien sûr.
Trop.
Si je peux me permettre, cette dépendance, elle est aussi importante dans les différentes régions en Chine. C'est extrêmement intéressant. On a des provinces aujourd'hui qui, entre guillemets, se volent des équipements de protection. Par exemple, les points d'entrée des marchandises vont être détournées par la province d'entrée en Chine et ne vont pas être livrées in fine, par exemple, dans le Hubei ou dans d'autres provinces.
Est-on certain de l'origine du virus et de ses modes de transmission? Est-ce un virus connu qui a muté? Daniel Lévy-Brulle.
Non, ce qu'on sait, c'est que c'est un virus qui circulait chez l'animal. On commence à avoir des pistes.
On parle du pangolin, là.
Voilà, une piste qui paraît sérieuse. Et ce qu'on sait, ce qui s'est probablement passé, c'est que ce virus qui circulait chez cet animal, dont le réservoir c'est les chauves-souris, a été transmis à l'homme. Probablement un mélange entre un virus chauve-souris et un virus mammifère a fourni à ce nouveau virus la capacité de se transmettre chez l'homme, alors qu'il ne l'avait pas avant. Et maintenant, oui, il a acquis les capacités de se transmettre et va devenir un virus qui va probablement circuler un certain temps.
Quel pouvoir de contrainte à l'OMS, au nom de la communauté internationale, que peuvent-ils exiger? Est-ce que nous sommes souverains? L'OMS n'a pas de pouvoir de nous imposer des mesures autoritaires de gestion de crise.
Des recommandations. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la Chine, en revanche, a un pouvoir sur l'OMS, puisque d'abord, il y a ce cas de Taïwan qui est très particulier. La Chine ne reconnaissait pas Taïwan comme une entité indépendante, a tout bloqué depuis que la présidente Tsai Ing-wen a été élue, et Taïwan n'est plus observateur à l'OMS, puisque la Chine y a mis son veto. Et c'est un véritable enjeu, puisqu'il y a des cas à Taïwan, que Taïwan est un des meilleurs systèmes de santé en Asie, et qu'il n'était pas du tout intégré aux discussions sous la pression de Pékin. Le deuxième élément, c'est que l'OMS, depuis le début, cherche à envoyer des équipes en Chine pour avoir tout de même des informations un peu plus fines sur d'où vient le virus, des informations scientifiques plus précises que ce que les Chinois ont pu donner, même s'ils ont donné plus que ce qu'ils avaient fait en 2003. C'est uniquement maintenant, et je ne sais même pas si l'équipe a pu partir, que Pékin a décidé d'accepter ces équipes de l'OMS, refuse toujours les équipes venant des États-Unis, l'idée étant qu'il a fallu attendre quasiment 2 mois pour que le pouvoir accepte de reconnaître que non, la Chine n'est pas cette puissance aussi forte qu'elle semblait vouloir le démontrer et que notamment en termes médicaux, ils ont besoin de l'aide extérieure.
Donc l'OMS est indépendante, mais un petit peu sous les influences chinoises quand même.
Oui, mais comme beaucoup d'institutions internationales de plus en plus.
Nous partons pour la Thaïlande au mois d'avril. Devons-nous annuler le voyage? Daniel Lévy-Brulle, si on vous posait la question dans un cercle privé, que diriez-vous? Parce que souvent...
Je dirais que c'est un peu tôt pour y répondre, parce que nul ne sait quel va être le développement de l'épidémie dans les prochaines semaines. Donc, j'attendrai avant de répondre à cette question.
Voilà qui est dit. Qu'est-ce qui peut favoriser la propagation du virus? L'humidité ou le froid? Daniel Lévy-Brulle.
On sait que les coronavirus survivent plus longtemps dans l'humidité que dans un contexte sec. Par contre, ce qu'on ne sait pas très bien, ce qui serait important pour la suite, c'est quid de la circulation de ce virus si on arrive à attendre suffisamment longtemps, par exemple dans un pays comme la France, avant qu'éventuellement il circule, quelle sera sa facilité de circulation lorsqu'on aura changé de saison. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement si le virus est sensible aux changements météorologiques. On espère que oui, comme la grippe, hein, dont on voit...
Parce
on
que la grippe disparaît l'été, voilà. Parce que la grippe n'aime pas le temps chaud et sec. Hein.
Exactement. On espère, mais on n'a pas de données pour savoir si ça sera vrai pour le coronavirus.
Mais alors, dites-moi si je me trompe, mais la grippe, l'été, elle ne bascule pas dans l'hémisphère sud.
Bien sûr.
Donc ce coronavirus pourrait basculer
bien sûr.
Si l'été comme la grippe.
C'est un raisonnement un peu égoïste que j'ai tenu pour la France.
Une révolution où, alors, des précautions particulières ont-elles été prises par les pays africains compte tenu des échanges importants avec la Chine ? C'est une question que posait l'OMS, à l'OMS qui s'inquiétait de ce que le virus frappe des pays où le système sanitaire est moins développé. Et c'est vrai qu'à ce jour, on n'a pas ou très peu de cas répertoriés en Amérique du Sud et en Afrique. Alors, on ne sait pas si est-ce qu'il y en a qu'on n'a pas détecté.
On ne sait pas si c'est pour des raisons de détection, effectivement, si c'est pour des questions de climat, si c'est pour des raisons d'échange, parce qu'en fait, même s'il y a de plus en plus d'échanges entre la Chine et l'Afrique, ils vivent quand même en vase clos. Il y a pas
les Chinois.
Donc, il n'y a pas un très grand échange de population. Du coup, ça crée une forme d'isolement qui peut jouer également.
Comment le Japon se prépare-t-il à accueillir les délégations pour les Jeux Olympiques cet été ? Cet événement planétaire peut-il être remis en cause ?
Valérie Alors, le Premier ministre Abe, c'est une question qui commençait à circuler, a dit que non. Mais ce qui est certain, c'est que les gens qui s'occupent des Jeux Olympiques au Japon, d'abord, se seraient bien passés de cette épidémie. Et ils pensent, enfin, en tout cas, pensent non pas à annuler les Jeux, mais c'est un vrai problème. Il y a eu une réunion de crise spéciale qui a eu lieu il y a quelques jours à Tokyo. Il y a un nombre de cas importants au Japon, mais il faut savoir qu'il y a 61 de ces cas sont sur ce fameux bateau de croisière qui est au large de Yokohama. Les Jeux Olympiques, ça veut dire un brassage de population très important. C'est un véritable défi. C'est au mois de juillet, c'est dans pas si longtemps que ça. Le temps de voir arriver les pics d'épidémie et ce qu'on va faire avec ces délégations. Comment tester les athlètes et puis toutes les personnes, les touristes, puisque le Japon a beaucoup misé sur l'augmentation du tourisme. On est passé de 8 millions de touristes en 2012 à plus de 30 millions aujourd'hui, dont plus du tiers sont des Chinois. Donc il y a aussi des conséquences économiques d'ailleurs pour l'économie japonaise qui a énormément tablé sur l'arrivée massive des touristes chinois. Quand on va à Ginza, à Tokyo aujourd'hui, et à Uniqlo notamment, pour ne pas citer de marque, ou d'autres boutiques, c'est vraiment un quartier qui est devenu très très chinois. Et c'est un défi auquel, là encore, les Japonais, comme tout le monde, n'étaient pas vraiment préparés.
Alors, question quid de la Corée du Nord ? Antoine Bondaz, est-ce qu'un pays aussi, on peut dire, autocratique que la Corée du Nord, comment elle le gérerait, un virus
Alors,
comme ça ?
Ce que la Corée du Nord a fait très vite, et c'était le premier pays à le faire, c'est de fermer ses frontières.
Avec la Chine.
Premièrement, fermer ses frontières, interdire les vols, et ensuite, désormais, les diplomates, par exemple, européens, les quelques diplomates européens à Pyongyang, ne peuvent plus partir. Ça a des conséquences, par exemple, extrêmement pratiques. Vous avez, dans quelques jours, la conférence de sécurité à Munich. Un vice-ministre des Affaires étrangères nord-coréen devait s'y rendre. Il ne peut pas s'y rendre puisqu'il ne peut pas quitter le pays. Il y a une inquiétude extrêmement forte en Corée du Nord. Il y avait eu un précédent, 2014, hein, Ebola. J'étais moi-même à l'époque à Pyongyang. J'étais arrivé et le lendemain, on m'avait expliqué que je ne pourrais peut-être pas repartir puisque la frontière était fermée pour justement éviter à tout prix que la Corée du Nord ne soit contaminée par le virus Ebola. Mmh. Le risque était à l'époque extrêmement faible. Là, il est beaucoup plus important puisque dans les préfectures frontalières de la Corée du Nord, notamment la préfecture de Yenbian, vous avez des cas déclarés. Il y a par exemple 5 cas et vous avez énormément d'échanges qui sont soit supervisés par le régime, soit qui sont des échanges un peu illicites, la contrebande et autres. Et donc, il y a une inquiétude du régime de cas d'importation potentiellement des Nord-Coréens qui iraient de l'autre côté de la frontière chinoise, qui reviendraient, qui infecteraient. Alors, il y a quelques rumeurs qui évoquent des cas de décès en Corée du Nord. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Ce qui est sûr, c'est que le système, évidemment, de santé nord-coréenne n'est pas designé ou adapté aujourd'hui pour faire face à une épidémie comme c'est le cas en Chine et que le régime doit tout faire pour éviter à tout prix le moindre risque de propagation.
L'épidémie pourrait-elle durer des mois, voire des années, Daniel Lévy-Brulle ?
des mois, c'est possible, si les mesures qui sont mises en œuvre, en particulier en Chine, ne sont pas suffisantes pour arriver à contenir le foyer initial. Je pense que ça va durer des mois. Peut-être que le virus va finir par s'installer. Peut-être qu'on aura un vaccin qui permettra de se débarrasser un jour du virus, mais il est trop tôt pour le dire.
À ce jour, quel est le traitement qu'on prodigue quand une personne a le virus ?
À ce jour, on prodigue des soins qu'on appelle symptomatiques, c'est-à-dire en fonction des symptômes. Il n'y a pas de médicament contre le virus lui-même, c'est-à-dire...
Yuan Liang, là, il avait des tubes d'oxygène dans le nez pour lui respirer.
Parce que le virus avait attaqué ses poumons, et dans ce cas-là, on fait comme avec n'importe quel virus qui attaque les poumons, on prodigue des soins qui permettent de mieux oxygéner le poumon. Alors, c'est la ventilation qui peut être soit simplement avec un peu d'oxygène, soit quelquefois, on peut aller jusqu'à intuber le patient pour lui procurer l'oxygène dont il a besoin.
Sait-on combien de temps le virus reste virulent sur un objet touché par un malade infecté ? Si je touche un interrupteur, si un malade infecté touche un interrupteur, combien de temps après l'interrupteur est dangereux ?
2-3 heures, je dirais. Mais après, pour que vous puissiez vous infecter, il faut que vous-même, après, vous mettiez la main à la bouche. Il faut que la personne ait eu du virus sur la main. Ça, on ne sait pas donc quelle est la proportion des transmissions qui correspondent à ce genre de situation, mais probablement ça y participe un petit peu.
Les animaux sauvages sont-ils maintenant interdits sur les marchés chinois, Valérie Niquet ?
Officiellement, oui, mais ils l'étaient déjà plus ou moins et ça n'a jamais été mis en place.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci. Elle sera rediffusée ce soir à 22h45. Vous restez sur France 5 à suivre. C'est à vous.